VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h en Nouakchott, 14h en N'Djamena, bienvenue à notre journal. L'agence privée mauritanienne Al Akba a rapporté mardi soir avoir reçu une vidéo de l'émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui affirme avoir enlevé la Suissesse Béatrice Oakley à Tombouctou, dans le nord du Mali, dans la nuit du 7 au 8 janvier. D'après l'agence, en contrepartie de la libération de Mme Stockley, le groupe djihadiste exige la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et de l'un de ses dirigeants, Abou Tourab, détenu à la Cour pénale internationale de La Haye. Réaction de la Suisse aujourd'hui, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dit avoir connaissance de la vidéo des ravisseurs. Il a ajouté que la Suisse demande la libération sans condition de la personne enlevée en refusant de préciser s'il y avait eu une demande de rançon. Le gouvernement suisse, qui a mis en place une cellule de crise dès l'enlèvement, indique suivre de près cette affaire et être en contact avec les proches de Mme Stockley et les autorités maliennes. Mali, construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est le thème d'un récent atelier organisé à Bamako par le ministère malien de la Réconciliation nationale avec l'appui de l'UNESCO. L'objectif, élaborer un programme national pour la culture de la paix et définir ses implications en termes de développement social, culturel et économique du pays. Au micro de Modibo Dembélé, les explications du représentant de l'UNESCO au Mali, Lazare Elundu Asomo.
Ce programme est né d'un constat. L'UNESCO a mené pas mal d'actions avec le gouvernement du Mali depuis la fin de la crise de 2012 dans le domaine de la culture. Lors de la dernière visite de la directrice générale au Mali en juillet dernier pour l'inauguration des mausolées de Tombouctou, il a été très clairement affirmé que la culture était un pan important pour contribuer à la paix. Parce que les mausolées de Tombouctou qui avaient été reconstruits n'étaient pas simplement des murs reconstruits, mais redonnait de la dignité et favorisait également un espace de dialogue pour la réconciliation entre les communautés de Tombouctou. Le gouvernement du Mali, avec la signature de l'accord, il était important d'appuyer ses efforts avec la culture de la paix. Parce que nous avons la conviction que pour consolider la paix, il faut utiliser les leviers de la culture, les pratiques interculturelles et l'éducation. Voilà pourquoi il nous est avéré important d'apporter cette nouvelle pierre à l'édifice en essayant de réfléchir ensemble avec la société civile malienne et les autorités maliennes et tous ceux qui veulent la paix au Mali à un programme national pour la culture de la paix.
Avec la hausse de l'insécurité et le retard accusé dans l'application de l'accord de paix entre le Mali et les groupes armés, comment comptez-vous matérialiser dans ce contexte les conclusions ou les recommandations issues de cet atelier?
Notre atelier n'a aucun rôle avec les questions politiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous la conviction aujourd'hui que les leaders de communauté, les leaders d'opinion, les femmes, la culture est très importante au Mali. C'est pourquoi nous nous positionnons, nous, dans ces questions que nous pensons très importantes, qui viennent à côté de tous les efforts de médiation politique qui sont en cours avec, pas simplement les groupes armés, mais l'ensemble de la population au Mali.
Quel sera alors le rôle spécial dévolu aux structures traditionnelles maliennes?
Il y a eu une recommandation de toute façon très forte qui est revenue de la société civile, notamment des femmes, des jeunes, mais aussi des autres leaders de la société civile qui ont convenu que les pratiques endogènes existantes au Mali devraient être utilisées, notamment toutes les pratiques interculturelles, pour régler les conflits, pour la médiation et pour prévenir surtout les conflits. Donc, il va y avoir tout un travail très important autour du rôle que la culture doit jouer. Et ce rôle sera au centre du programme national pour la culture de la paix.
Lazare Elundu Asomo, représentant de l'UNESCO au Mali. Ouverture demain à La Haye du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce sera la première fois qu'un ancien chef d'État comparaît devant la CPI. Éric Manirakiza.
Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blé Goudé, 44 ans, seront sur le banc des accusés. Les deux hommes vont plaider coupable ou non coupable de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. À l'ouverture, la procureure Fatou Bensouda prendra la parole, ainsi que les représentants des victimes, puis les avocats à la défense. L'accusation dit disposer de 138 témoins qui ne seront pas tous appelés à la barre et de 5300 éléments de preuve. Ce procès devrait durer 3 à 4 ans. La crise post-électorale de 2010 avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, arrêté en 2011, est le premier ancien chef d'État livré à la CPI. Son épouse Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun membre du camp d'Alassane Ouattara n'a été inquiété par la CPI. Les partisans de M. Gbagbo sont attendus devant la CPI pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complot ourdi par la France.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Mauritanie, malgré la forte tendance à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international, les prix à la pompe n'ont pas changé, d'où la mobilisation sur les réseaux sociaux des internautes qui ont organisé une manifestation à Nouakchott. Le maintien des prix des hydrocarbures en l'état s'accompagne d'une hausse des prix des denrées alimentaires à forte consommation. Écoutez ce qu'en dit Moussa Ould Sambassi, directeur de publication du quotidien de Nouakchott.
On sait que le principal élément du budget du État mauritanien était les dividendes reçus à partir de la vente du fer de la CNIM. Il y a eu une baisse importante du prix du fer sur le marché international. Aujourd'hui, on estime que le gouvernement, pour compenser cette perte, il refuse de baisser ses prix à la pompe comme tous les pays voisins. Écoutez, le Mali, le Sénégal, le Maroc ont tous baissé 3 fois, 4 fois, voire 5 fois, et nous pas une seule fois.
Moussa Ould Sambassi, directeur de publication du quotidien de Nouakchott. Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, l'opposition fait contre mauvaise fortune bon cœur après la désignation du président Denis Sassou Nguesso par le parti au pouvoir pour le représenter au scrutin du 20 mars prochain. Au micro de Nani Talani, Guy-Romain Kinfoussi, un leader de l'opposition à Brazzaville, affirme que l'opposition évitera surtout la politique de la chaise vide.
C'est un résultat qui était connu d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. M. Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste 2 mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir, vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition ?
L'opposition, on va y aller à condition que les conditions permissibles soient respectées.
Guy-Romain Kinfoussi, un leader de l'opposition au Congo-Brazzaville. Tchad, Groen et des étudiants de l'université de N'Djamena, campus de Toukra, à une dizaine de kilomètres de la capitale. La police est intervenue hier pour disperser leur mouvement d'humeur. Les étudiants revendiquent de meilleures conditions d'études sur ce campus, pourtant inauguré en 2012. Les explications de Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens section de N'Djamena, au micro de Timothée Donangmaï.
Les gens de Toukra revendiquent la réouverture du restaurant qui est fermé faute de financement et de l'électricité sur le site de Toukra et puis la bibliothèque et le centre de santé. Donc voilà les revendications des gens de Toukra. C'est assez là, 3 semaines, le gouvernement n'a pas répondu. Ils sont obligés de manifester, de barricader. Le site de Toukra est loin de la ville et il n'y a même pas un centre de santé. Même l'année dernière, nous avons perdu 2 étudiants et nous ne voulons pas enregistrer encore des victimes. C'est pourquoi les étudiants revendiquent une ambulance sur le site de Toukra. L'année académique 2015-2016 vient d'être lancée, le 15, mais jusqu'à là, tout est bloqué à l'autre, surtout sur le campus de Toukra. Parce que les étudiants exigent à ce que le minimum de revendications soit satisfait avant que le cours puisse démarrer. Donc, la situation reste toujours bloquée à tout cas.
Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena. L'actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, les belligérants syriens sont attendus vendredi à Genève pour de nouveaux pourparlers de paix. Le plus urgent de l'heure, selon les organisateurs, c'est d'acheminer les secours aux millions d'habitants des villes assiégées. Sur le terrain, les forces fidèles au président Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, des combattants du Hezbollah libanais et des officiers iraniens, se sont emparés lundi de la ville de Sheikh Mihsin, près de la frontière jordanienne, mais la majorité de la province de Deraa est toujours aux mains des rebelles soutenus par l'Arabie Saoudite et du Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.